Voilà, ce matin, on va poursuivre la réflexion que j'ai menée déjà depuis deux cultes sur cette qualité de Dieu qui est la constance, qui est aussi un signe de maturité chrétienne, on l'a vu. Et ce matin, on va voir plusieurs choses par rapport à la maturité, quels sont les signes de l'immaturité d'abord, qu'on voit dans la Bible, et aussi comment Dieu s'emploie à nous faire grandir, à nous faire mûrir, pour que nous puissions devenir des chrétiens stables, mûrs, comme c'est le désir de Dieu pour nous. Dans le premier culte, on a parlé de cette grande qualité de Dieu qu'on retrouve tout au long de la Bible, qui est cette capacité à être toujours le même. Dans Jacques 1, 17, Jacques nous parle des dons que Dieu nous fait, qui sont des dons parfaits, parce qu'ils proviennent du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. J'ai pu souligner dans le premier culte à quel point c'est rassurant pour nous, bénéfique, de savoir que le Dieu qui nous a donné ces dons est un Dieu constant, immuable, qui ne change pas, qui ne va pas changer d'avis demain, nous retirer ce qu'il nous a donné aujourd'hui ou hier, parce que Dieu ne change pas dans sa personne. On a vu dans le second culte que le danger de l'immaturité était un danger important pour la vie de l'Église. Dans l'Épître aux Éphésiens, Paul nous rappelle qu'il veut que nous soyons non pas des petits-enfants, ballottés, influencés par des vents de doctrine qui cherchent à nous déstabiliser, mais qu'on puisse ancrer sa vie en Christ, s'enraciner en lui. C'est tout le travail de Dieu. Ce matin, je vais relire Jacques 1, versets 2 à 7, qui est le passage de référence qu'on avait pris déjà dans les autres cultes, où l'apôtre Jacques nous rappelle que ce processus de maturité est un processus qui est long et qui est ponctué par des épreuves. On ne devient pas mûr du jour au lendemain. Il faut qu'on passe par différents tests qui permettent à notre foi de s'ancrer profondément en Christ. Et donc, l'apôtre Jacques nous dit que nous devons regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Quand on fait le tour de la Bible, on se rend compte que tous les hommes de Dieu sont passés par des épreuves. Aucun n'a été épargné des épreuves de différents genres, à différentes périodes de leur vie aussi. L'apôtre Jacques nous parle de diverses épreuves, elles ne sont pas ressemblantes, elles sont très variées. Mais là, aussi une épreuve là. C'est le banc qui était mal mis, je pense. Ça va aller? Voilà. Rappelons-nous que nous sommes un peu comme des arbres qui sont exposés à différents vents. Vous savez que pour qu'un arbre s'enracine, il faut qu'il soit confronté à des vents violents, souvent. Et c'est souvent ceux qui sont confrontés à des vents violents au début de la forêt qui tiennent l'ensemble, qui protègent. Et donc les épreuves, elles n'ont pas pour but de nous déraciner, mais de nous enraciner. On va parler ce matin d'une église qui est sans doute une des églises où il y avait le plus d'inconstance et d'immaturité. Est-ce que vous voyez de quelle église je fais? C'est Corinthe. Corinthe. Et on va simplement relever quelques points dans l'église de Corinthe qui soulignent le caractère infantile des chrétiens, c'est ce que dit Paul. le fait qu'il manquait de maturité. Et on va voir pourquoi cette Église stagnait à ce niveau alors qu'elle aurait pu grandir et croître. D'abord dire que l'Église de Corinthe n'est pas la moindre des Églises du Nouveau Testament. On lit dans les Actes que, alors que Paul s'apprêtait à entrer à Corinthe et qu'il avait déjà connu bien des souffrances, hein, Paul était souvent blessé, meurtri, battu quand il annonçait l'Évangile, le Seigneur, dans Actes 18, 9 et 10, donne une vision à Paul pendant la nuit et lui dit « N'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas, car je suis moi-même avec toi et personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Paul aurait pu se dire « Je vais éviter Corinthe parce que ça n'a pas l'air d'être un lieu forcément facile. La réputation de Corinthe était d'une ville où il y avait beaucoup d'immoralité. » Et Dieu a insisté auprès de Paul pour qu'il aille dans cette ville, en lui disant « J'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Quand on lit l'épître de Paul aux Corinthiens, on se rend compte que non seulement l'église de Corinthe était une grande église, mais c'était une église aussi dotée de grands dons, de beaucoup de dons. Dans 1 Corinthiens 1, versets 4 à 7, Paul dit « Au début de l'épître, je dis constamment toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. En effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. » Une église nombreuse, une église dotée de nombreux dons. Et pourtant, au chapitre 3, Paul dit, certainement avec une certaine tristesse, « Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit, mais comme à des personnes charnelles, dirigées par leur nature propre, comme à de petits enfants en Christ. » 1 Corinthiens 3, verset 1. Une grande église, beaucoup de dons, et pourtant une immaturité. Ce n'est pas la taille de l'église qui fait la maturité de l'église. Et ce n'est même pas le nombre de dons. C'est l'œuvre de Dieu dans le cœur de chacun des chrétiens. La maturité se voit dans la ressemblance à Jésus, le développement du fruit de l'esprit, on en a parlé ce matin, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et elle se voit surtout dans la qualité des relations entre les membres de l'Église, leur soutien mutuel, leur accueil, leur capacité de se supporter, de se pardonner. À Corinthe, il faudrait passer plusieurs cultes pour disséquer tous les problèmes qu'il y avait à Corinthe. C'était sans doute l'Église qui a dû faire souffrir le plus Paul dans son cœur en voyant l'immaturité qui se manifestait dans cette Église. Il le dit, « Je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à de petits enfants en Christ. » On a vu qu'une église peut être déstabilisée parce que des doctrines la secouent, des fausses doctrines qui peuvent ballotter les chrétiens. On va voir ici deux autres causes d'immaturité dans l'église de Corinthe. La première que Paul relève, on va lire, c'est 1 Corinthiens 1, versets 10 à 12. C'est un sujet qui va occuper presque trois chapitres parce que l'apôtre Paul y revient dans le chapitre 3. « Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet par l'entourage de Chloé qu'il y a des rivalités entre vous. Je veux dire par là que chacun de vous affirme « Moi, je me rattache à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi à Christ. » Christ est-il divisé ? Continue ensuite à développer ces questions. La première cause d'immaturité, en tout cas, c'était la tendance aux divisions et aux rivalités entre les membres de l'Église. Il y avait des clans dans l'Église de Corinthe. Je pense qu'il y a peu d'Églises qui ont été aussi privilégiées et gâtées que l'Église de Corinthe. Imaginez, Paul, Pierre sont passés par là, ont enseigné l'Église. Apollos, qui était un homme éloquent, il est dit, qui connaissait les Écritures. On pourrait se dire qu'avec la qualité des orateurs, des enseignants qui étaient à Corinthe, des apôtres, eh bien cette église aurait dû être un modèle pour toutes les autres. Mais tout ce que cela a produit, c'est des fractions et des divisions. Et la cause de ces divisions, c'est simplement des polémiques au sujet de préférence par rapport à des personnes. Et l'apôtre Paul ne cache pas le problème. Et dans sa formulation, il met quelque chose en avant. Moi, je. Vous avez remarqué ? Je veux dire par là que chacun de vous affirme « Moi, je me rattache à Paul, moi à Apollos, moi à Céphas. » Le danger, c'est d'avoir des points de vue ou des préférences qui font qu'on oublie l'ensemble de la bénédiction que Dieu apporte. On s'attache à des choses partielles, secondaires. On préférait des personnes plutôt que de voir que c'est le Seigneur qui utilisait chacun comme il le voulait pour enrichir l'Église. Le danger des points de vue qui deviennent des choses qu'on met en épingle peut être un sujet de division et c'est surtout une preuve d'immaturité, dit Paul. Et je crois qu'on doit vraiment garder dans nos cœurs la vision d'ensemble de l'œuvre de Dieu. Ne pas s'arrêter à des choses qui sont secondaires, qui sont partielles, mais qui peuvent devenir sujet de polémique. D'ailleurs, le mot polémique, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, une polémique, c'est une querelle publique marquée par un débat vif et passionné entre des opinions opposées. Le mot polémikos, c'est un terme relatif à la guerre, en fait. Polémos, c'est un mot qui veut dire guerre en grec. Et donc, c'est une première chose que l'apôtre Paul épingle dans cette église, le danger de se fractionner pour des choses qui ne sont pas essentielles, mais qui relèvent du point de vue et des préférences de chacun. L'apôtre Paul répond à ce problème de division dans 1 Corinthiens 3, un peu plus loin. Il dit, au verset 2, « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes encore animés par votre nature. » En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine ? Quand l'un dit « Moi, je me rattache à Paul » et un autre « Moi, Apollos », n'êtes-vous pas animés par votre nature ? Qui est donc Apollos et qui est Paul ? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. On doit se rappeler que l'Église appartient au Seigneur et jamais à un homme. Et que les hommes sont simplement des serviteurs que Dieu utilise pour un temps. Mais c'est Dieu qui fait croître, qui fait grandir dans le chacun la vie chrétienne, la vie avec lui. Et donc, nous devons nous méfier de tout ce que nous prenons pour un point de vue important, mais qui pourrait devenir facilement un sujet de discorde et de division. C'est le premier point qu'on voit chez l'Église de Corinthe. Alors peut-être qu'on aspire à ce qu'il y ait une Église énorme, hein, mais on voit que quand une Église est grande, ben, les fractions sont aussi plus grandes et plus dangereuses. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prier pour que l'Église ne grandisse pas, hein, mais on doit veiller dans ce domaine. Un deuxième point d'immaturité dans l'Église de Corinthe, c'était le fait que le péché n'était pas traité à la mesure de sa gravité. Et dans Corinthiens 5, vous vous souvenez sans doute de ce cas que Paul révèle à l'Église de Corinthe, un cas d'immoralité. On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous, une immoralité telle qu'on ne la mentionne pas même chez les non-croyants. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil. Vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Quant à moi, absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte comme si j'étais présent. Quand vous vous rassemblez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je serai avec vous en esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. Alors c'est vrai que nous sommes tous pécheurs. Aucun de nous n'est parfait dans sa vie chrétienne. Mais il y a une différence entre commettre un péché, de temps en temps, je dirais, et laisser s'installer et se développer dans l'Église des comportements qui sont marqués par le péché. Une pratique du péché qui est récurrente, courante. L'apôtre Paul, dans le chapitre 5 de Corinthiens, épingle plusieurs types de péchés qui ne devraient pas avoir cours dans l'Église de Jésus. Et donc il nous dit, verset 9, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Je ne parle pas d'une manière absolue des gens de ce monde qui vivent dans l'immoralité ou sont toujours désireux de posséder plus, voleurs, idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. Ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relations avec quelqu'un tout en se disant « Votre frère vit dans l'immoralité sexuelle » est toujours désireux de posséder plus, donc est cupide, idolâtre, calomniateur, ivrogne, voleur, de ne pas même manger avec un tel homme. Est-ce à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur? N'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Chassez le méchant du milieu de vous. L'immaturité de l'Église de Corinthe était due au fait qu'il y avait un laxisme, une mollesse, on peut dire, à vouloir traiter les cas qui posaient problème dans l'Église. Les péchés qui étaient pratiqués, quelqu'un qui pouvait vivre avec la femme de son père et qui partageait peut-être la scène, c'est terrible. Il y avait des choses qui portaient honte à la personne de Christ, au témoignage de Christ. L'apôtre Paul dit au verset 6, « Vous n'avez pas vraiment de quoi être fier, ne saviez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» Le problème de la tolérance dans l'Église est qu'elle permet à un levain de pouvoir s'introduire et d'imprégner ensuite toute la pâte. Il ne faut pas beaucoup de personnes pour affecter la qualité spirituelle d'une Église, mais une seule personne qui devient un contre-témoignage flagrant, public, porte préjudice au témoignage de Christ dans l'Église. Alors, la maturité, c'est de considérer le péché comme Dieu le considère, comme quelque chose d'étant grave, qui porte atteinte, pas seulement au témoignage de l'Assemblée, mais à la personne de Dieu, à son honneur. Et ce qui est vrai pour une église l'est aussi pour nous, bien sûr, dans notre vie privée, personnelle. Dans le livre de la Genèse, alors que Caïn s'apprête à tuer son frère, Dieu lui parle, l'avertit sévèrement et lui dit « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » Dès le début, le Seigneur montre que le péché, ce n'est pas un gentil petit toutou, hein, qu'on peut calmer et dresser comme on veut. C'est une bête sauvage qui n'attend que le moment favorable pour se jeter sur nous et faire de nous ses captifs, en quelque sorte. Plus nous grandissons dans la maturité spirituelle, eh bien, plus nous avons, je pourrais dire, une sensibilité à la gravité du péché. On en prend plus la mesure, plus on s'approche de Dieu. Et Jésus, à l'égard du péché, n'a pas été tendre. Il nous a dit que nous devions, s'il le fallait, prendre des mesures radicales. On va lire Matthieu 5, versets 27 à 30. Vous connaissez sans doute cela. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère », mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et Jésus parle ensuite du remède. « Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir tout ton corps entier jeté en enfer. » Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Alors, faut pas prendre la parole de Jésus à la lettre. Hein. Je voudrais pas que demain, il y en a qui se tranchent la main ou se percent l'œil. Mais ça montre que les choses les plus... comment dire, les plus utiles, les plus importantes de la vie, si elles sont un problème, on doit être prêt à les sacrifier. On doit prendre des mesures qui sont radicales à la hauteur du mal dans lequel elles risquent de nous entraîner. Et donc c'était le problème de l'église de Corinthe. Un des problèmes, c'est que personne n'osait vraiment traiter les cas difficiles. On laissait les choses se faire. L'apôtre Paul dit à cette église qu'au lieu de se glorifier, sans doute, l'église de Corinthe se glorifiait parce qu'il y avait beaucoup de dons, beaucoup de choses extraordinaires qui se passaient. Elle aurait dû pleurer et mener deuil parce qu'elle ne rendait pas gloire au Seigneur en laissant les choses se faire. Alors je dis tout cela pour dire que, eh bien, le travail qui nous conduit à la maturité demande quelque part des efforts, demande une œuvre, une prise de conscience. Et parfois, Dieu doit nous faire passer par des épreuves, parce que les épreuves sont le processus qui accélère notre accès, notre perfectionnement, notre maturité spirituelle. C'est ce que dit Jacques. La persévérance dans l'épreuve accomplit parfaitement sa tâche afin que vous soyez qualifiés sans défaut et qu'il ne vous manque rien. On doit vraiment prendre conscience que la vie chrétienne sera traversée et cousue d'épreuves. C'est quelque chose que nous devons intégrer dans notre formation. Et moi, j'ai eu l'occasion d'entendre des serviteurs de Dieu très âgés qui sont passés par des choses très difficiles et qui disent que sans elles, ils n'auraient pas progressé, ils n'auraient pas avancé dans leur vie comme ils ont pu le faire. L'éducation d'un enfant, d'après la Bible, est une éducation à l'obéissance. Et aujourd'hui, on est assez allergique à cette idée de contraindre un enfant à l'obéissance, hein. On imagine que la discipline est quelque chose qui va le frustrer, le détruire, alors que dans la parole de Dieu, elle est toujours vue d'un côté positif, la discipline. Proverbe 22,15 dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant et que la verge de la correction l'en éloignera. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut frapper sans arrêt. Hein. Paul ne dit pas cela non plus dans ses épîtres. Il montre qu'il faut éduquer, avertir et instruire. C'est ça, corriger. C'est corriger le tir, en fait. Corriger la vie. Dans Hébreux 12, versets 4 à 11, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle du bienfait de la correction. Et on va s'attacher à ce texte. Comme il en est dans l'Épître de Jacques, le texte qu'on va lire ne porte pas de connotation négative, mais positive. Pas une seule fois dans la Bible, la correction n'est envisagée comme quelque chose de négatif. Toujours quelque chose de positif qui aboutit à un résultat qu'on ne produirait pas autrement. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensé de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants, illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard, chez ceux qu'elle a ainsi exercé, un fruit porteur de paix, la justice. Il y a plusieurs points que l'auteur souligne ici sur la valeur et le bienfait de la correction. D'abord, la première chose, la correction atteste que j'ai de la valeur pour Dieu. C'est parce que Dieu me considère comme son fils qu'il me corrige. C'est parce que Dieu a le souci de mon éducation. Il a de la considération pour moi. Il veut que je grandisse, que je sois gardé de chemins qui pourraient m'entraîner dans le mal, dans la souffrance inutile. C'est pour ça qu'il me corrige. La question, elle vaut quelque chose à notre époque. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? C'était une évidence dans le passé. En tant que père, on était chargé de la correction, de l'éducation, on pourrait dire, bien que le mot correction revienne 9 fois ici. Hein. Ce n'est pas simplement un terme comme ça. Et comme je l'ai dit, c'est corriger, c'est éduquer, ne pas laisser faire, apprendre à dire stop, discipliner l'enfant, le faire entrer dans une sorte de contrainte pour qu'il ne soit pas amené, pour qu'il ne se laisse pas entraîner dans les débordements naturels vers lesquels il pourrait aller. Deuxième chose, la correction de Dieu s'attaque au péché dans notre vie. Vous n'avez pas encore, comme Jésus, résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Vous n'avez pas encore pris la mesure de la dureté du combat que vous devez livrer contre le péché. C'est pour ça que Dieu agit en nous par diverses épreuves, pour qu'on prenne conscience de ce combat, de la réalité de ce combat. La correction ne doit pas être perçue comme un sujet de découragement. C'est ce que dit ici l'auteur. Elle est certes d'abord vécue comme un moment de tristesse, mais elle participe à notre bien. Elle nous fait grandir vers la maturité et la sainteté. Et le dernier point que soulève l'auteur, c'est que ce n'est pas dans l'immédiat qu'on apprécie le bienfait de la correction, mais dans le futur. Elle produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous appelle à ne pas avoir une courte vue, mais à comprendre le processus dans lequel nous sommes engagés avec Dieu. Dieu veut nous conduire à une vie mûre, parfaite, en Christ. C'est son but. Il veut reproduire en nous le caractère de Christ. Il veut nous délivrer de nos tendances au péché, au mal. Et parce qu'il vise ce qu'il y a de meilleur pour nous, il met les moyens aussi, par moments, pour que les choses puissent se faire. Ne croyons pas que c'est une joie pour Dieu de nous discipliner. Lamentations 3, verset 33, dit « Ce n'est pas volontiers que Dieu humilie, afflige les enfants des hommes. » C'est jamais agréable pour un père de corriger son fils, son enfant. Mais derrière le moment difficile, ce qu'il voit, c'est le bien que ça pourra produire pour lui. Et je crois que beaucoup de parents, peut-être, pleurent plus tard dans la vie en voyant leurs enfants dériver dans toutes les directions parce qu'ils ont refusé peut-être qu'ils pleurent un moment dans leur enfance en les corrigeant. On doit faire le choix. Quand une église fait l'impasse de la discipline, elle dit à Dieu qu'elle tient moins en honneur l'objectif de la sainteté que le confort du pécheur qui vit au milieu d'elle. Qu'est-ce qui compte le plus ? Est-ce que c'est la gloire de Dieu dans l'Église ou le bienfait de chacun qui peut vivre comme il l'entend ? Et c'est pourquoi la discipline est importante, parce que nous visons que la gloire de Dieu soit manifestée, la sainteté de Dieu puisse être vécue. On va encore prendre un dernier passage dans 1 Pierre 1 qui me semble important. 1 premiers chrétiens sont passés par beaucoup d'épreuves très diverses. Certains ont tout perdu pour leur foi. Ils ont perdu leurs biens, ils ont perdu leur métier, ils ont perdu leur famille. Et encore aujourd'hui, vous le savez, dans beaucoup d'endroits, l'épreuve est grande. L'apôtre Pierre parle du salut qui sera révélé dans les derniers temps, verset 5, et il dit « C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. » C'est le même terme, « diverses épreuves. » Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors ici, l'épreuve est envisagée comme un processus de purification. La même chose qui se passe avec l'or. L'or, c'est un métal précieux. Et quand on le voit comme ça, on ne sait pas qu'il y a des impuretés dedans. Il faut qu'il passe par le feu. Et le feu fait fondre l'or et sépare les éléments qui sont dans l'or pour qu'ils puissent être dissociés et qu'on puisse récolter que l'or. Alors, je ne l'ai pas trouvé moi-même, je me suis intéressé à la question. Pour purifier l'or, il faut le faire passer à une température de 1064 degrés. Vous imaginez, c'est terrible. Ce que l'apôtre Pierre veut dire, c'est que nous avons besoin de l'épreuve pour que ce qui est un mélange entre la qualité de la vie avec Dieu, et ce qui vient de nous-mêmes puisse être séparé. Et c'est intéressant parce que quand l'or est passé donc par le creuset, eh bien ce sont les métaux de base qui ne sont pas de l'or qui remontent en surface, comprenez ? L'or est au fond et tout ce qui n'est pas de l'or remonte en surface. Et je dirais que dans l'épreuve, dans la vie chrétienne, ce qui nous apparaît, ce que Dieu veut mettre en valeur, ce qu'il veut identifier, ce qu'il nous permet d'identifier, c'est ce qui n'est pas juste, les fausses motivations, les impuretés qui sont dans nos cœurs. Et on le voit par exemple, prenons l'exemple de David, hein, Dieu l'a mis à l'épreuve à un moment et il a été tenté de compter combien de gens, sur combien de gens il régnait. L'épreuve a mis en valeur l'ambition de David, le fait qu'il aimait le pouvoir. Il voulait savoir sur combien de personnes il régnait. L'épreuve a toujours ce but, de nous montrer quelque chose dont on n'est pas conscient, qui est peut-être caché en nous. Et d'un coup, on en prend conscience par le feu au travers duquel on passe. Je dirais que l'épreuve voudrait séparer en nous ce qui est subjectif, lié à notre moi, dans notre relation avec Dieu, de ce qui est objectif, qui dépend entièrement de Christ. David, dans le psaume 119, dit « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. » Alors pour conclure, j'aimerais qu'on puisse garder ce que l'apôtre Pierre nous dit à la fin du verset 7 que j'ai lu. « Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable, et que l'on soumet pourtant l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » On le voit dans les évangiles, Jésus souligne à quel point il a à cœur de récompenser la fidélité et l'attachement de ses serviteurs à sa personne. Dans toutes les paraboles, Jésus parle d'une récompense, parle d'une satisfaction de Dieu pour la personne qui lui a obéi, qui le suit avec fidélité. Et je pense que Dieu a des intérêts, des objectifs souvent beaucoup plus élevés que nous. Nous, on aimerait vivre une vie assez tranquille dans la moyenne, mais Dieu veut nous préparer quelque chose. Imaginez, lorsque vous entrerez dans la présence de Dieu, si vous vivez ce qui est écrit ici, l'épreuve de votre foi aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Louange, gloire et honneur pour lui, mais aussi pour vous, parce que vous aurez laissé le fondeur faire son œuvre de purification pour vous amener au résultat qu'il a en vue. Alors que Dieu nous aide à grandir en maturité, j'en ai besoin, vous en avez besoin tous, nous en avons tous besoin, mais c'est l'objectif de Dieu pour nous. On va encore prier.